suite de l'article précédent, dans le kiné actualité du 19 avril, tendinopathie et traitement fonctionnel par Franck Mettet, le même auteur. La prise en charge doit répondre à un double objectif. Supprimer la douleur induite par les lésions dues au déséquilibre entre les capacités mécaniques du tendon et les contraintes auxquelles il est soumis. Et réduire ce déséquilibre afin d'éviter de voir réapparaître la douleur lors de la reprise des activités. Les facteurs étiologiques à rechercher sont de deux ordres. Les facteurs intrinsèques, âge, altération de l'état général, troubles statiques prédisposants, diminution de la vascularisation du tendon, défaut d'extensibilité musculotendineuse, déficit de force musculaire, foyers infectieux buccopharyngés, contexte psychologique. Les facteurs extrinsèques, erreur d'échauffement, modification de l'entraînement et de la compétition, problèmes de matériel ou de surface d'entraînement, gestes techniques avec contraintes, conditions climatiques, diététiques inadaptées, insuffisance d'apport hydrique et ration protidique excessive. Bilan et examen clinique. Tout traitement commence par un bilan et un état des lieux, donc tout naturellement par un interrogatoire. Ce dernier doit porter sur l'ensemble des caractères de la douleur, mode d'apparition, ancienneté, horaire, rythme, intensité, et préciser le degré de gêne fonctionnel. Le retentissement sur les activités quotidiennes et physiques. La recherche de causes déclenchantes et de facteurs favorisants est également nécessaire. L'évolution des douleurs doit être notée, de même que l'influence du repos et des traitements. Progressive, le plus souvent, les douleurs peuvent survenir brutalement, sans cause reconnue, et apparaître un matin au réveil. Elles peuvent être provoquées, aggravées ou simplement réveillées par un choc direct ou pour une activité physique ou sportive habituelle, mais plus intense ou totalement nouvelle, avoir une allure traînante perdurant depuis plusieurs mois ou même plusieurs années. Les caractéristiques de la douleur spontanée permettent de distinguer trois stades. Stade 1, douleur de caractère mécanique survenant après l'effort mais disparaissant au repos. Stade 2, douleur en début d'activité disparaissant après l'échauffement et réapparaissant après l'exercice, proportionnelle à l'intensité de l'entraînement. Stade 3, douleur pendant et après l'activité avec altération progressive des performances sportives. L'examen clinique, toujours comparatif, s'attache à préciser la localisation exacte de la lésion et son importance. Il met en évidence une triade symptomatique constituée par le réveil de la douleur lors de trois manœuvres effectuées après l'inspection. La contraction résistée, l'étirement passif et la palpation. L'inspection n'apporte de renseignements que dans l'étude des tendons superficiels et permet d'apprécier le volume du tendon, le relief des parties molles adjacentes, l'aspect du muscle. L'étude de la contraction résistée constitue quant à elle un temps fondamental de l'examen clinique. Dans les tendinopathies, le déclenchement d'une douleur lors de la contraction résistée du muscle est une nécessité absolue pour affirmer le diagnostic et doit être effectué en tenant compte de la physiologie du muscle. Le problème pour l'examinateur est de se placer dans des conditions de résistance suffisantes pour déclencher les réactions douloureuses au niveau du corps du tendon ou de sa zone d'insertion. Pour certains tendons du membre inférieur, tendons calcanéens et rotuliens, il est nécessaire de réaliser des tests de difficulté croissante pour provoquer l'apparition de la douleur. Deuxième temps important du diagnostic, l'étirement, qui n'est pas systématiquement douloureux, enthésopathie et les myotendinites, peut entraîner une légère limitation de l'amplitude du mouvement. La palpation, réalisée en dernier afin de ne pas parasiter la recherche de la douleur lors des deux premiers temps, doit être conduite de façon méticuleuse. Elle permet la mise en évidence de différentes anomalies. Un réveil de douleur correspondant aux douleurs spontanément ressenties par le patient, une augmentation de la chaleur locale, des crépitations ou des crissements localisés ou diffus, un nodule douloureux qui peut être de volume variable à l'issue de cet examen. On peut classer la tendinopathie dans une catégorie relativement bien définie. D'après le site, on peut identifier les tendinopathies d'insertion et les tendinopathies corporéales de jonction myotendineuse ou de la bourse séreuse. D'après l'aspect du tendon, on peut différencier les péri- ou paratendinites, les tendinopathies simples et les tendinopathies nodulaires. D'après l'étiologie, on peut distinguer les tendinopathies par hypersollicitation, observées en pratique sportive, et les formes d'origine métabolique. Aspects généraux du traitement. Le traitement est basé sur le repos relatif du tendon, en arrêtant l'activité responsable de la douleur. Le traitement médical dépend du type de pathologie affectant le tendon et de sa localisation. Dans son rôle de conseil, le praticien va s'attacher à éliminer les facteurs de risque, facteurs aggravants, qui ressortent du bilan, pratique sportive, diététique, posturologie. Dans le traitement symptomatique, les techniques utilisées devront viser tout d'abord à diminuer la douleur, cryothérapie, contention, et les phénomènes anti-inflammatoires, lorsqu'ils sont présents, mais aussi à restituer au tendon une structure fonctionnelle, MTP, travail musculaire excentrique, étirement, ultrasons, ondes de choc extracorporelles et dermoaspiration. Nous savons cependant que si les études sont nombreuses, l'efficacité de ces thérapies reste quant à elle incertaine. Cela est principalement lié à la difficulté de réaliser de telles études. Néanmoins, ces types de traitements ont pour la plupart une action locale quasi certaine, essentiellement antalgique, mais à court terme. Afin d'éviter toute récidive, une action préventive est à mettre en place qui s'intéressera tout particulièrement à réduire les facteurs décrits plus avant qui la favorisent. La chirurgie peut être proposée après échec du traitement médical et kinésithérapique. Masso-kinésithérapie. Les massages sont utiles sous la forme de massage décontracturant du corps ou de la chaîne musculaire concernée, massage transverse profond effectué au niveau du tendon en position de dégagement. Chanusseau et Danowski proposent 10 minutes par séance sur un cycle de 3 semaines au rythme de 5,3 puis 2 séances pour espérer, non, de 5, 3 puis 2 séances pour espérer une efficacité, ce qui est souvent désagréable pour le sujet mais aussi pour le praticien. Il faudra respecter partiellement au moins le seuil de tolérance à la douleur du patient. Ils ne seront donc pas pratiqués pour des tendinopathies d'origine mécanique et inflammatoire en phase aiguë, bursite, tenosynovite, certaines enthésopathies. La technique de crochetage myo-aponevrotique touche au tissu conjonctif du système musculo-squelettique. En présence d'une douleur localisée, le thérapeute commencera son travail à l'aide de crochets en éloignement de la douleur pour s'en approcher progressivement. La finalité résultera du travail des adhérences. Pour une tendinopathie achilléenne, le but est de libérer toutes les structures de la chaîne musculo-aponevrotique postérieure du grand fessier pour s'achever, si nécessaire, sur le calcanéum. Le travail de libération du tendon calcanéen ne sera effectué que si les zones en amont sont dégagées. Les étirements, qu'ils soient analytiques ou en chaîne, rééducation posturale globale, stretching global actif, sont réalisés régulièrement et toujours en dessous du seuil de la douleur. Les exercices de force musculaire en mode excentrique augmentent la résistance tendineuse en stimulant les mécanorécepteurs situés dans les ténocytes, permettent de produire le collagène nécessaire à inverser le cycle de la tendinose. D'après Leadbetter, LEADBETER, 1992, et améliore l'alignement des fibres de collagène d'après Fife, FYFE, Stanish, STANISH, 1992. Ce travail se fera progressivement de vitesse lente à vitesse plus rapide avec des charges croissantes. Le protocole le plus connu est celui proposé par Stanish. Peu pratique à mettre en œuvre, sans appareil à charge ou isocinétique, il est souvent réduit au seul travail excentrique. En physiothérapie, la cryothérapie utilisée plusieurs fois par jour pour son effet antalgique, avec une température cutanée qui doit descendre au-dessous de 15 degrés, peut être associée à la thermothérapie pour son effet décontracturant sur le corps musculaire. Dans le domaine de l'électrothérapie, La diélectrolyse médicamenteuse, ionisation, bien qu'encore prescrite et pratiquée, est très contestée scientifiquement. La douleur de la tendinopathie est une douleur aiguë et localisée. Il est donc indiqué d'utiliser des techniques locales, telles que l'électrostimulation antalgique, par inhibition sensitive segmentaire, guette, contrôle, 20 à 30 minutes sans risque de brûlure, dont l'effet est rapide et localisé. Ce courant s'applique sur l'occodolenti et ou sur le trajet du nerf responsable de l'innervation du tendon. L'électrostimulation antalgique par libération d'endorphines indiquée pour le traitement des douleurs chroniques ou diffuses peut aussi être utilisée comme traitement complémentaire du GET control. Avec une intensité élevée au maximum tolérée par le patient, elle doit produire des contractions musculaires de type secousses élémentaires, mais rester en deçà du seuil de la douleur. L'effet antalgique est progressif, diffus et durable. Les ultrasons utilisés si fréquemment ne montrent pas, d'après les derniers écrits scientifiques, de véritables effets sur la lutte contre la douleur, l'inflammation ou une quelconque accélération du processus de cicatrisation. Cependant, en pratique courante, on les applique avec une puissance et une fréquence variables en fonction de la localisation pendant 5 à 8 minutes, uniquement sur les membres, à l'aide d'un gel de contact pour les articulations proximales ou en immersion pour les articulations distales. Eu égard à leurs effets thermiques, les ultrasons ne seront pas indiqués sur les lésions fraîches, aiguës, inflammatoires étant soulignées, ou hémorragiques. En revanche, leurs effets sclérolytiques donnent d'excellents résultats sur les lésions anciennes, chroniques, dégénératives, fibreuses, tendinopathie chronique dégénérative, épicondylite, enthésite, ténosynovite. Au vu des connaissances physiopathologiques développées dans la première partie de ce thème, ils ne seront donc pas utilisés en phase aiguë. Les ondes courtes et centimétriques, entre parenthèses radar, sont des ondes électromagnétiques qui produisent une thermothérapie en profondeur, principalement localisée au niveau des tissus musculaires. Vasodilatation, diminution de l'excitabilité nerveuse, action antispasmodique. Contre-indiquées en phase aiguë, ces ondes s'appliquent sur les fibroses musculaires des membres et ne sont pas spécifiquement adaptées au traitement des tendinopathies. Plus récent, le traitement par onde de choc extracorporelle. Technique non invasive, apporte une aide non négligeable. Le principe s'apparente probablement à celui de certaines techniques kinésithérapiques reconnues comme efficaces, massage transversal profond, massage défibrosant, et combine à la fois une action mécanique et une action biochimique antalgique et ou anti-inflammatoire local. Il a été montré en échodoppler qu'il se produisait une hypervascularisation locale susceptible d'augmenter le métabolisme local. Le principe simplifié est de créer des lésions fraîches supplémentaires susceptibles de cicatriser dans un deuxième temps, contrairement à une lésion chronique non évolutive et désespérément douloureuse. Très efficace sur les tendinopathies corporéales et certaines enthésopathies, insertion haute du disque jambier, elle est contre-indiquée dans des tendinopathies inflammatoires comme les bursites, des ténosynovites. Le protocole utilisé dépend de la localisation et du type de lésion. Habituellement, il comporte le plus souvent une séance par semaine ou deux pour les sportifs de haut niveau, avec un nombre inférieur ou égal à 6 de façon à proposer un traitement relativement court. Les résultats divergent selon les sites. Elles semblent plus efficaces sur les tendinopathies calcanéennes que rotuliennes et sur les enthésopathies des ischio-jambiers plus que sur les épicondylites. Il n'y a pas pour l'instant d'effet secondaire connu. Une alternative peu connue encore en France pour le patient existe, les ondes acoustiques. La dermoaspiration, en dermologie, dermatonie, permet d'obtenir parfois des résultats intéressants en participant à la diminution de la fibrose ainsi qu'à la réduction des nodosités. Les contentions et orthèses, qu'elles soient souples, semi-rigides ou rigides, seront utilisées dans les formes les plus sévères où même l'arrêt de l'activité devient insuffisant. Conclusion. un bilan précis sera le meilleur début possible d'un traitement qui a tendance trop souvent à être standardisé. D'autant plus que le sport nous amène maintenant une population de plus en plus nombreuse. Les seniors qui commencent ou reprennent une activité physique après 50 ans, les problèmes tendineux rencontrés prennent alors des formes toujours plus sérieuses. C'était Tendinopathie et traitement fonctionnel, deuxième partie dans le kiné actualité du jeudi 19 avril 2007.